Nous connaissons bien, frères et sœurs bien-aimés, ce passage des marchands du temple. Et on cite souvent ce passage-là comme l'expression d'une sainte colère, comme pour aussi justifier nos colères à nous, qui ne sont pas toujours saintes du reste. Mais, si vous le permettez, ce n'est pas sur cet aspect-là que j'aimerais méditer et porter mon attention, mais sur une partie qui me semble peut-être encore plus capitale, en tout cas qui est la finalité de ce geste prophétique de chasser les marchands du temple. Détruisez ce temple et en 3 jours, moi, je le relèverai. Mais lui parler du sanctuaire de son corps. Alors, je trouve intéressant de dire, nous sommes invités à travers cette réalité à réfléchir sur la portée du corps humain dans notre foi. Quel est le lien entre notre corps et notre foi? Bien souvent, vous entendez dire qu'il y a 3 grandes religions du livre. Il y a 3 grandes religions du livre, le judaïsme, l'islam, le christianisme, mais je ne crois pas qu'il en soit ainsi. Il y a 2 religions du livre, judaïsme et islam, et le christianisme, c'est la religion du corps. Regardez bien, quand vous faites le tour des fondamentaux de notre foi, regardez bien un peu ce qu'il y a. Évidemment, on pense au corps de Jésus eucharistique, on pense au corps glorifié au moment de la résurrection, on pense au corps que forme l'Église, on pense au corps de Jésus lorsqu'il était sur terre, et au fond, nous sommes nous aussi, nous formons un corps, le corps mystique. Donc, notre religion est une religion du corps, et pourtant, on voit comme une sorte de dépréciation du corps dans notre foi, au fil des siècles. Parce que si on faisait un micro-trottoir dans notre ville, on disait, mais pour vous les catholiques, est-ce qu'ils ont une vision positive ou négative du corps? Beaucoup diraient négative. Et ça a une histoire, ça s'enracine dans quelque chose. Parce que, vous le savez, les premiers chrétiens étaient des néo-platoniciens. Alors, ça vous ramène, pour ceux peut-être beaucoup en arrière, à la philosophie, même si on ne devrait jamais abandonner la philosophie. Mais vous savez que pour Platon, il y a une séparation entre l'âme et le corps, et l'âme est prisonnière du corps, et il faut justement faire échapper l'âme, le spirituel, pour accéder au contemplatif. Et donc les premiers chrétiens ont dit, en fait, oui, le corps nous joue des tours, nous tire vers la terre, le péché de chair, etc., très mis en avant, en tout cas souvent insisté là-dessus, oublions que nous sommes la religion de l'incarnation. Nous sommes, et c'est ça qui est contradictoire, nous sommes la religion de l'incarnation. C'est-à-dire que comment avoir une relation négative au corps alors que dans notre foi, le cœur même de notre foi, nous croyons que le Verbe de Dieu s'est fait chair, a pris corps dans la Vierge Marie. Et puis ensuite, donc, il y a eu ce mouvement néoplatonicien que les premiers chrétiens se sont greffés dessus, donc cette sagesse, c'est intéressant, cette sagesse grecque que saint Paul nous mentionne dans la première lecture, cette sagesse grecque. Et puis ensuite, il y a eu tout un courant qui a survalorisé la vie monastique. Quand vous regardez dans l'histoire de l'Église, il y a la sainteté, vous trouvez de ça dans saint Paul aussi, ceux qui ne peuvent plus se maîtriser, entre guillemets, qu'ils se marient. Mais les parfaits qui se donnent au Christ. Et donc vous avez eu dans toute l'histoire de l'Église comme montrer la vie monastique comme l'état de perfection. Et donc du coup comme la vie matrimoniale qui fait usage du corps par l'intimité des époux, entre autres, comme quelque chose de seconde zone. Donc c'était des siècles durant, ça, et il a fallu, ça s'est arrêté avec 2 choses. Il a fallu d'abord le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II qui a rappelé que l'appel à la sainteté de tous les baptisés. Nous sommes tous appelés, quelle que soit notre situation de vie, notre état de vie, nous sommes tous appelés à la sainteté. Et puis, il y a eu ensuite une autre chose qui est très importante, dont vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas, ce serait à voir, mais ce qu'on appelle la théologie du corps selon Jean-Paul II. La théologie du corps selon Jean-Paul II, c'est-à-dire Jean-Paul II qui a, il a dit deux choses, je trouve, très importantes et qui pour nous, en tout cas, nous aident beaucoup, en tout cas, pour moi, m'aident beaucoup à avoir une autre vision du corps. Premièrement, il a dit, le corps dit la personne. Le corps dit la personne, c'est-à-dire que notre corps dit toute notre personne. Quand on nous touche, voilà, si on vous serrez la main, ce n'est pas juste un contact des épidermes. C'est toute la personne de l'autre. D'où l'importance de respecter le corps de l'autre. Donc le corps dit la personne, et c'est pour ça aussi, on va faire un petit peu de théologie, ça va être un peu technique, je suis désolé, mais c'est pour ça qu'on peut dire que Marie est mère de Dieu. Parce que le corps dit la personne. Quand vous voyez Jésus, Verbe fait chair, Marie est mère de Jésus, oui, mais elle est mère de son corps, oui, mais comme le corps dit toute la personne, et la personne c'est la deuxième personne de la Trinité, on peut dire que Marie est mère de Dieu, parce que le corps dit la personne. Mais ensuite il y a une autre chose qui dit Jean-Paul II, qui est très intéressant, qui dit le corps rend visible l'invisible. Rend visible l'invisible. Ça, et il le dit très clairement, que ce soit pour le corps de Jésus en cette terre ou pour le corps eucharistique, rend visible l'amour de Dieu, l'amour du Père, la transcendance du Père. Mais il le dit aussi dans l'intimité des époux, l'union des corps rend visible l'amour des conjoints. Donc ça, c'est intéressant de dire, tiens, au fond, notre foi, nous sommes la religion du corps. Nous sommes la religion et par conséquent, nous sommes la religion de la personne. Nous ne sommes pas la religion du livre. Nous ne sommes pas la religion du livre. Et donc, ça veut dire aussi que nous-mêmes, nous avons un rapport au corps qui est différent. Et dans ce que Jésus vient manifester dans cet évangile, il dit, voilà, si détruisez ce temple, en 3 jours, je le reconstruirai, et parler du temple de son corps. Ben, ça nous dit aussi que, on le rappelle, hein, c'est « Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit ?» Et ça, c'est quelque chose de profondément chrétien, et uniquement nous, les chrétiens, nous croyons ça. Uniquement nous. J'écoutais, souvent je me forme au judaïsme, j'écoutais des cours donnés par des rabbins, etc. Dieu est en moi, pour eux, c'est une aberration complète. Et on les comprend, selon leur point de vue, selon leur croyance. Mais parce que nous croyons que nous sommes le corps du Christ et que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, chaque personne humaine est un tabernacle. Vous voyez, chaque personne humaine est un tabernacle. Et je trouve que c'est tellement, tellement beau de vivre ainsi. Tellement, et du coup, on peut aussi appliquer ce que dit le Seigneur. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ne faites pas du corps humain une maison de commerce. Et on voit bien certains qui vivent en commercialisant le corps humain, etc., par des tas de choses, voilà, que ce soit la traite de personnes humaines, que ce soit tout est lié à la prostitution, à la pornographie, etc., etc. On ne voit pas le corps dans sa beauté ultime. Et nous sommes invités aussi à ressusciter avec notre corps. Nous sommes invités à ressusciter avec notre corps. Et c'est parce que c'est toute notre personne qui est invitée à être dans la gloire de Dieu. Je trouve intéressant de méditer ça, de dire au fond, est-ce que pendant ce carême, nous ne sommes pas invités à avoir un regard peut-être plus contemplatif sur le corps, le nôtre, alors que nos sociétés parfois projettent sur les corps, et singulièrement sur les corps féminins, des demandes excessives de canons d'une prétendue beauté. Eh bien nous disons, ce qui fait la beauté du corps humain, c'est qu'il est temple du Saint-Esprit. C'est ça qui fait la beauté du corps humain. C'est que nous sommes invités à contempler Dieu avec notre corps dans la vie éternelle. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Ça change tout le rapport à la personne. Toute notre personne, pas seulement notre âme, est appelée à contempler Dieu, mais toute notre personne. Corps et notre personne, forcément, c'est âme et corps. Ce que je vis avec mon corps, je le vis avec mon âme, et inversement. Et vous voyez, par exemple, La médecine a beaucoup avancé dans tout ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Vous savez, les maladies psychosomatiques, c'est des maladies où des dérèglements psychologiques viennent se manifester dans des dysfonctionnements physiques. Vous voyez, donc c'est intéressant ça. C'est-à-dire, parce qu'il y a un vrai lien entre la psychologie, l'âme, psychos en grec c'est l'âme, et notre corps, parce que nous sommes une unité. Au fond, est-ce que le carême ne vise pas à une certaine unification de notre personne? Est-ce que ce n'est pas ça la conversion? Est-ce que ce n'est pas cette invitation à revoir les personnes et le lien encore avec notre corps tel qu'il est? Et puis notre corps, on voit bien, c'est le rappel des limites, un corps qui peut être handicapé, un corps qui peut être malade, un corps qui est vieillissant, un corps, voilà. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de revoir le lien avec notre corps comme le rapport avec les limites, avec le manque? Au fond, l'invitation à une humilité. Est-ce qu'au fond, ce grand mystère de l'incarnation n'est pas l'invitation à l'humilité? Dieu lui-même, c'est notre foi, a pris, est né de la Vierge Marie et a pris notre corps et notre nature humaine, etc. Donc voilà, je trouve ça très beau d'avoir ce regard-là particulier, de se dire, oui, parfois notre corps n'est pas facile à supporter, ou, voilà, pour X raisons, particulièrement dans la maladie, les dysfonctionnements, mais c'est une école de patience, c'est une école d'amour, au fond. Et pour ceux d'entre vous qui sont mariés, de voir aussi comment le lien, il y a un dialogue des corps qui est... qui évolue en fonction de l'âge, évidemment, parce que en ayant contact avec le corps de l'autre, j'ai contact avec son âme, j'ai contact avec son intimité, avec ce qui fait le plus profond de sa personne. Donc, je trouve que Jésus nous donne dans cette méditation, dans ce passage, nous aide à reprendre conscience que nous sommes temple. Nous sommes temple. Et c'est pour ça que nous participons de l'Eucharistie chaque dimanche. Parce que l'Eucharistie, c'est vraiment une pédagogie. Vous voyez? C'est vraiment une pédagogie. Nous communions au corps de Jésus, nous le croyons. Hein, vraiment, il est là, présent sur l'autel après la consécration. Nous le croyons. Nous communions au corps de Jésus. Et parce que nous communions au corps de Jésus, nous reprenons conscience aussi de la beauté de notre personne. Âme et corps dans sa globalité, parce que nous communions aussi à sa divinité en même temps que nous communions à son corps. Donc c'est toute une pédagogie, et ça c'est tellement beau, et c'est toute une invitation ô combien à pratiquer l'humilité. À pratiquer l'humilité. Qui d'entre nous, posez-vous la question, qui d'entre nous, tout en gardant sa nature, accepterait de prendre la forme d'une hostie? Qui d'entre nous? Parce que Jésus, après la consécration, est vraiment présent complètement, réellement sur l'autel, sous la forme, comme on dit, du pain et du vin. Mais quelle humilité! Quelle humilité! Ce corps consacré, ce corps eucharistique, qui nous renvoie aussi à nos humilités, à nous, et qui s'enracine aussi dans le corps. Et soyez toujours très attentifs à une chose, mes amis, c'est que beaucoup de dérives spirituelles dans la tradition de l'Église, et peut-être ailleurs aussi, ce sont ces dérives qui ont mis de côté le corps humain, qui ont spiritualisé les affaires. Tout se résout dans la vie éternelle, c'est un mystère, c'est une grâce, et on oublie, au fond, que nous sommes tirés de la poussière, nous sommes faits de la main de Dieu, qui par son Saint-Esprit fait de nous son temple, et que nous sommes avec notre corps appelés à contempler Dieu dans la vie éternelle. Donc, gardez bien ce lien entre nature, ce qu'on appelle la nature humaine, et la grâce. Bien garder cet équilibre, c'est pas si simple, mais c'est pour ça qu'on participe de la messe. On participe de la messe parce que on veut se rappeler que Jésus lui-même a choisi ce chemin. Et au quotidien, il nous accompagne à travers la présence réelle, à son corps eucharistique. Il nous accompagne, il nous redit les uns aux autres. Voilà, tu m'as forcené un corps, comme dit l'Écriture. Alors j'ai dit, voici, je viens. Amen.